Mesdames, messieurs.
Quel genre d'histoire ?
Des histoires.
Et après ?
537 représentations.
La vie est romance, c'est différent.
Indiscipline, magazine transversal présenté par Xavier Thomas. Et sans doute notre temps préfère l'image à la chose, la copie à l'original, la représentation à la réalité, l'apparence à l'être. Nous vivons dans une société du spectacle et celui-ci n'est autre que le capital, à un tel degré d'accumulation qu'il devient image. Ces quelques mots sont de Guy Debord, écrivain et cinéaste, poète et stratège, maître à penser de l'international situationniste qu'il a fondé en 1957, figure de la contre-culture des années 60 et 70. Personnage éminemment indiscipliné, il a construit au travers de ses textes et de ses films un ensemble de situations poétiques animées d'une volonté farouche de ne pas séparer l'art de la vie, de tenir et maîtriser un propos dont les caractéristiques sont la rupture et le détournement. Personnage ombrageux, radical certes, il fut aussi formidablement lucide sur l'évolution de nos sociétés de consommation, autant d'ailleurs que sur les alternatives marxistes qui constituaient dans ces années 60 la forme orthodoxe de la contestation politique. Son suicide en 1994 mettra un point final à une œuvre dont on réalise aujourd'hui qu'elle est essentielle à la compréhension des avant-gardes du XXe siècle, qu'elle résume, détourne et prolonge à la fois. Une œuvre faite de parcours croisés entre texte et film, à l'instar de la société du spectacle qui est à la fois l'un et l'autre et reste aujourd'hui le bréviaire de tout bon agitateur qui se respecte. Une œuvre que je vous propose de revisiter en compagnie de Jean-Pierre Rem, directeur du Festival international du documentaire, de François Bazzoli, critique, historien d'art et professeur à l'École des Beaux-Arts, et d'Antoine Coppola, écrivain, critique de cinéma et professeur à l'Université de Provence. Bienvenue dans ce 18e avatar d'Indiscipline, intitulé « Situation ».
Puisqu'elle tempête pour nous, à Jack Kerouac. Le soleil clope le macadam de Manhattan. La virage grouille et piétine. Le béton fumant brouille la vue et encriste les rêves de vastes étendues. L'herbe à bison ne pousse pas sur les pelouses de Central Park. Les affaires, le business, rien que des dégoulinades sous les aisselles et des perturbations mentales. L'Empire State Building, tel un doigt planté dans le cul du ciel, laisse filer son soin bureaucrate sur la 33e Ouest. Ça déferle les bourbouilles drues vers les quais blasés de Penn Station. Chez Barnes & Noble, j'ai dégoté un exemplaire de Hall, publié par Barry Miles. Le manuscrit d'Allen, tout chargé de ratures et de traces de doigts, accompagné de photos de Carl Solomon, d'Allen, de Neil, d'Herbert Hunk, de Peter Duperrou, de Peter Orlovsky, de Bob Dunlan, de Robert Lavigne, de Lawrence Ferlinghetti, de William Burroughs, et de toi, Jack, de toi, tirant sur ton clope, 206 Est, 7e rue, New York City.
Rupture, détournement, le cinéma de Guy Debord, si désobéissant qu'il soit, obéit cependant à ses propres règles, une théorie qualifiée de « théorie du détournement ». De quoi s'agit-il ? On écoute Antoine Coppola.
D'abord, en ce qui concerne la rupture, je pense que la rupture, elle est radicale, dans le sens où il n'est pas dans l'intention de Debord de créer une nouvelle esthétique, de créer un nouveau cinéma, une nouvelle théorie du cinéma. Donc là, il y a rupture. Donc, on n'est plus dans cette avant-garde qui cherche de nouvelles formes. Alors, c'est là qu'intervient la théorie du détournement. C'est une vraie théorie, parce qu'il a écrit, noir sur blanc, une théorie qui est parue dans la revue Les Lèvres Nues, la revue des surréalistes belges, de Marcel Marien en particulier. Au lieu de créer, de produire une nouvelle esthétique en tournant lui-même des images, il pioche dans ce qui a déjà été fait et il réorganise les films à sa façon. Alors, il y a deux aspects. Je vais être assez rapide hein, sur sa volonté d'user du détournement. C'est d'abord dévaloriser les sources. Les films qui servent de source à ces détournements perdent de leur valeur puisqu'il en conteste le sens et l'usage aussi dans la société. Et le deuxième aspect du détournement, c'est de produire un message subversif. Favoriser le sens en utilisant n'importe quel support, en fait. Au lieu d'accumuler ce que lui appelait le spectacle, au lieu de donner encore de la matière au spectacle, plutôt déconstruire le spectacle qui était déjà à l'œuvre pour lui donner un sens révolutionnaire. Donc voilà, en gros, la théorie de Debord sur le détournement. Et ensuite, ça a été repris, cette théorie, malheureusement, par des gens qui n'avaient pas la même idée que lui. Je pense à la publicité, qui détourne sans arrêt les films de fiction, toutes sortes de discours. Ça a été aussi repris par des gens comme Fluxus, avec toutes les cinéma underground américain ou les mouvements avant-gardistes et de l'art contemporain, qui aussi pensaient, je pense à Nam June Paik en particulier, qui a dit il faut arrêter de produire des images. Il faut essayer de leur donner du sens à celles qui existent, ou en tout cas leur retrouver un sens véritable.
Dans son rapport au temps, le cinéma de Debord place le spectateur face à l'irrémédiable, la fuite du temps, l'absence de salut. Quelque chose au fond qui fait penser à une forme de tragédie antique. Est-ce que vous rangeriez volontiers Guy Debord dans la catégorie des tragédiens ?
Il y a une dimension tragique chez Debord, c'est très clair. Il suffit de lire sa correspondance de lycéen, où il écrit à un ami que son but est de marquer l'histoire, même s'il ne pense pas y avoir du succès. Malgré tout, il voit derrière cet échec annoncé, programmé, on va dire, donc il voit un moyen de marquer l'histoire et de produire un retour d'un mouvement qui va prendre la suite des situationnistes, d'un personnage qui va prendre la suite de Debord. Donc il y a exactement la tragédie gréco-romaine avec cette idée du héros qui doit marquer son temps et amener une suite, mais pas en lui-même, quelqu'un d'autre qui viendra prendre sa suite. Donc il y a vraiment du tragédien chez Debord, c'est assez clair. On lui a reproché d'ailleurs, chez les gauchistes de l'époque, je pense à 68, et après 68, on lui a reproché ce côté tragédien en disant qu'il cherchait toujours un style, une forme à son activité, et en oubliant le but effectif, la réalisation concrète. Ce à quoi Debord se débarrassait assez vite, parce qu'il était largement plus efficace que la plupart de ses mouvements gauchistes. Ensuite, la tragédie, elle va loin chez lui, puisqu'il a, par exemple, programmé sa mort, c'était un suicide, programmé la dernière diffusion de son dernier film à la télévision. Donc on voit bien cette maîtrise totale de sa vie et de sa mort. Ce qui peut être tragique aussi dans le travail de Debord, c'est la puissance des idées qu'il a amenées avec le groupe situationniste. Et maintenant, a posteriori, quand on regarde les résultats, on a aussi un certain sens de la tragédie de ce magnifique groupe qui, tout d'un coup, a cédé la place à une confusion sûre et certaine. Donc là aussi, c'est une vision a posteriori, mais qui existe vraiment.
Thank you.
D'abord poète, stratège, philosophe ou esthète, adepte du dérangement, de la provocation, il était difficile de ne pas esquisser un parallèle avec le sulfureux Marquis de Sade, d'autant que le premier film de Guy Debord, réalisé en 1952 à l'âge de 20 ans, est intitulé « Hurlement en faveur de Sade ». Debord, comme Sade, à la marge entre esthétique et philosophie. On écoute Jean-Pierre Rem.
Alors la question du Marquis de Sade, je ne suis pas certain qu'il faille la poser en termes d'opposition ou de distribution entre d'un côté l'artiste, l'écrivain et de l'autre le philosophe. Je crois plutôt que, non pas que cette question ne puisse pas en débattre, mais en tous les cas au regard de Debord, je pense qu'il faut l'inscrire dans la genèse de Debord lui-même, puisque on a trace d'une correspondance quand il est adolescent avec un de ses amis, qui est intitulé le Marquis de Sade a des yeux de jeune fille, et que cette figure de Debord, donc qui est importante pour ces deux adolescents, elle vient évidemment d'une longue tradition et plus récemment, au moment où, donc dans ces années-là, avant les années 50, pour Debord, du surréalisme. Et que je crois que ce qui caractérise la figure de Debord dans le surréalisme, c'est bien sûr d'être pas simplement un philosophe, un penseur et un écrivain, mais aussi au fond quelqu'un qui a mené une vie exemplairement scandaleuse. Le scandale n'étant pas tellement, de soi-disant pratiques sexuelles, puisque au fond, on sait bien, hein, Sade a vécu plus d'un tiers de sa vie incarcéré. Donc, si vous voulez, pour résumer, je pense qu'il y a l'aspect... Il y a l'aspect scandaleux, il y a l'aspect soustrait à la réalité. On fait une œuvre, au fond, on punit la société d'en être puni. Et puis, il y a aussi, je crois, quelque chose qui n'est jamais dit explicitement comme tel chez Debord, mais je pense que c'est important au regard d'autres de ces références qu'on va retrouver plus tard dans son œuvre, qui est malgré tout, et au risque de choquer, l'aristocratie, hein, c'est-à-dire que d'une certaine manière, moi j'ai envie de dire l'incarcération de Sade est une espèce d'équivalent de la situation de la noblesse française ou de l'idée de la noblesse française dans cette fin du XVIIIe siècle. Donc au fond, pour le résumer, et je pense que c'est ça qu'en font les surréalistes, hein. D'ailleurs, il y a un fameux portrait peint de Sade par Man Ray qui est un portrait imaginaire, mais qui est, son visage est fait de pierres, enfin des pierres de la Bastille. Et je crois que c'est ça qui est à retenir, enfin entre autres, on va dire, hein, dans l'œuvre de Debord, c'est cette puissance qui est allié à la soustraction, le retrait, le refus d'une participation sociale. Hein, l'aristocratie comme, au fond, étrangement, on pourrait dire l'aristocratie comme Bastille. Voilà, donc je pense que c'est davantage, me semble-t-il, l'exemplarité, une espèce de pré-antéchrist, si vous voulez, qu'il y a dans le Marquis de Sade pour Debord, que l'alliance d'un penseur et d'un romancier ou d'un esthète et d'un philosophe. Et du reste, le film, disons le manifeste, hein, puisque une des phrases prononcées dans le film, je rappelle que le film est une alternance de noir et de blanc, c'est-à-dire là aussi de soustraction dans le cinéma lui-même de toute image, au bénéfice d'une bande-son raréfiée qui est faite de montages de phrases qui proviennent de diverses sources et parmi lesquelles on entend « Mais il n'est pas question de Sade dans ce film ». Cette phrase, elle révèle qu'à l'intérieur du film, le titre, au fond, est une fausse promesse. C'est-à-dire, non seulement Sade joue comme celui qui est exclu, mais il est même exclu du film qui porte son nom.
Ex nihilo, le Debord, sorti de rien, venu de nulle part? Certainement pas. Avec Isidore Isou et les lettristes, il développe un art du collage, irrévérencieux, mais cultivé. Quelques influences parmi les avant-gardes du XXe siècle, évoquées par François Bazzoli, historien d'art. À commencer, évidemment, par les surréalistes et Dada.
Oui, excusez-moi. Oui, en effet, il me semble que Dada par filiation, c'est-à-dire par chronologie, mais pas simplement par antécédent, est extrêmement important. C'est d'abord, je crois, l'influence directe sur le style de Debord, qui est le collage. Or, bien plus que Picasso ou que le cubisme, c'est Dada qui invente le collage. Et des gens comme Harp qui invente le hasard dans le collage, ou Schwitter qui fait de sa vie et de son œuvre un immense collage, sont dans cette vision-là. Et pour Debord, que ce soit dans ses films, que ce soit dans ses écrits, mais dans cette récupération totale et dans l'idée du collage. Il n'y a pas que le collage, il y a aussi la liberté de l'esprit de Dada qui flotte sur le situationnisme, le détournement, quelque chose qui est comme la vie vécue comme une performance, mais aussi, je crois, une œuvre qui serait un work in progress, c'est-à-dire une œuvre en évolution totale, j'allais dire définitive, mais une œuvre en évolution totale sont des choses qui définissent Dada et qui définissent aussi Debord et peut-être aussi, en sens large, le situationnisme.
Peut-être aussi cette idée, au-delà du détournement, que c'est le spectateur qui, au final, termine l'œuvre. De même que dans un ready-made de Marcel Duchamp, c'est le regard du spectateur qui, en fait, crée l'œuvre. Lorsqu'on voit un film, par exemple, de Guy Debord, le spectateur est appelé à être actif, même si, d'ailleurs, cette activité consiste à sortir de la salle épouvantée, mais en tout cas, à être actif.
Oui, c'est parfois, ça consiste à siffler pendant le film, puisqu'il ne s'y déroule rien, et que cela provoque le spectateur. Et chez Fluxus, lorsque, par exemple, Nam June Paik projette un film totalement blanc qui se charge des poussières qu'il accumule et où on ne voit rien, nous sommes dans la même idée. C'est d'ailleurs quelque chose de très proche de ce qui se passe dans Hurlement en faveur de Sade. C'est-à-dire que ça agglutine les bruits du public, comme chez John Cage, on agglutine aussi les bruits de la rue, puisque John Cage disait « quand je vais entendre de la musique, j'ouvre ma fenêtre ». Donc nous sommes bien dans une idée qui est celle de Debord, et qui est aussi celle des années 50 en général.
Peut-être une autre source d'influence aussi, on pourrait évoquer brièvement les surréalistes, peut-être pas tellement dans cet attachement à ce qui est vraiment le fondement du surréalisme, l'appel à l'inconscient, mais plutôt dans cette qualité presque, on va dire, dogmatique qu'a eu Guy Debord au sein du groupe des situationnistes, qu'on pourrait peut-être un peu comparer à celle qu'a eu André Breton au sein du groupe des surréalistes. Quelque part, une volonté de se poser un peu comme un maître à penser.
Alors oui, mais je crois qu'il y a une autre influence des surréalistes, et c'est d'ailleurs assez amusant que et les lettristes dont a fait partie Debord et les situationnistes s'opposent au surréalisme, mais ils empruntent une forme qui est l'espèce d'absence de travail. plastique. On n'est pas dans son atelier, on ne suit pas, on prend la matière vivante et on l'agglutine, ou alors on est dans l'inconscient et l'écriture automatique, ou on est dans un rapport d'objet à objet ou de personne à personne qui engendre une dynamique, et ça, ça vient du surréalisme. Mais cette caractéristique du surréalisme vient aussi du dadaïsme, puisque la plupart des surréalistes, que ce soit Maxence, que ce soit Picabia, que ce soit Duchamp, que ce soit beaucoup d'autres, viennent du dadaïsme. Donc, on est là dans cette filiation dont je parlais, une filiation qui, en fait, est dans l'auto-engendrement. Il y a une espèce de morphogénèse ou de morphogénétique, c'est-à-dire que les uns en branchent, c'est très drôle ce que je viens de dire, enclenchent les autres mouvements, et que nécessairement il y a opposition de l'un à l'autre, opposition de Izou à Breton, opposition de Debord à Izou, et puis bien sûr opposition à Debord dans toutes sortes de choses, puisque Debord cherchait avant tout l'opposition.
Dada et les surréalistes, deux influences donc marquantes qu'on pourrait qualifier d'avant-guerre. Immédiatement après-guerre, une autre influence qui me semble déterminante, vous me direz ce que vous en pensez, c'est celle d'un groupe intitulé Cobra, un collectif pluridisciplinaire. Cobra, ça signifie Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, notamment animé par Carré Lapel, très récemment disparu, et puis Askerjorn et Constant, qui sont venus avec Debord fonder l'International Situationniste en 1957. Quel type de filiation peut-on établir entre Cobra et Debord et les situationnistes ?
Je crois qu'il y a une filiation directe, puisque certains Cobra, qui sont Asgerjorn et Constant, vont se retrouver dans les fondations même du situationnisme, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'abord le fait que Cobra est une volonté de s'opposer, encore une fois, aux surréalistes, ce qui prouve l'importance de ce groupe, mais aussi de faire une peinture qui soit une peinture de vitesse, d'émotion, de matière, de densité, de réaction, et de s'opposer à Paris. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que Cobra se fonde en 48 à Paris, mais bon, c'est la même, sans doute, opposition que celle avec les surréalistes. C'est l'attirance-répulsion qui conduit, je crois, dans ces années d'une richesse absolue, à opposer les groupes les uns contre les autres, à procéder à des manifestes, à des exclusions, à une vie du groupe que l'on ne trouve absolument plus maintenant, puisque l'individualisme est le contraire de l'opposition. Chez Debord, je crois que l'idée de s'opposer à est fondamentale. C'est-à-dire que l'objet, qu'il soit surréaliste, lettriste, dadaïste, est à la fois une source, mais aussi un mur. C'est-à-dire qu'en s'opposant, on rebondit, et les cobras qui vont émigrer vers le situationnisme sont des gens qui rebondissent. On va prendre deux cas, il y en a beaucoup, il y a quelques artistes, mais il n'y en a pas tant que ça qui sont proches du situationnisme. Moi, j'en vois trois importants, c'est Constant, c'est Guillaume, et peut-être l'Italien Pino Galizio, qui meurt très tôt, qui meurt en 64, et qui a travaillé en tant qu'artiste très tard, puisqu'il était pharmacien, et dont l'œuvre est un peu méconnue hors de l'Italie. Mais en tout cas, pour Constant, c'était une volonté d'aller vers le social, vers la société, et surtout vers un imaginaire, une utopie de l'art qui pourrait fonder un monde différent. Et donc son utopie est urbaine, architecturale, et c'est une chose qui va conditionner un travail qui était de l'ordre de la couleur exacerbée et quelque chose de proche de l'art brut, et qui va l'amener à quelque chose de beaucoup plus construit, et surtout à des œuvres qui sont tout à fait retournables, puisque on trouve chez Constant des maquettes d'architecture qui, une fois redressées et posées au mur, peuvent devenir des tableaux. C'est-à-dire une vision retournable et un art du décalé, un art du buissonnier que l'on trouve, je crois, dans le situationnisme. Pour Jorn, c'est la même chose. Jorn est quelqu'un qui a une peinture extrêmement expressionniste et violente et qui, en même temps, va errer entre le collage, les collages qu'il a fait avec Debord, d'ailleurs, à la fin des années 50, qui va errer même vers les nouveaux réalistes, puisqu'il y a une période d'affiches lacérées dans son travail. Et ce sentiment qu'il faut aussi regarder le monde. Chez Pino Galli, dont l'œuvre est beaucoup moins atteignable, il y a aussi ça, c'est-à-dire quelque chose qui évolue entre un art reconnaissable et une performance. C'est tout à fait intéressant, et cette marge dont vous avez parlé plusieurs fois me fait penser à cette phrase de Jean-Luc Godard qui dit que c'est la marge qui tient la page.
Le côté progressif du surréalisme à son début est dans sa revendication d'une liberté totale et dans quelques essais d'intervention dans la vie quotidienne. Supplément à l'histoire de l'art. Le surréalisme est dans le champ de la culture comme l'ombre du personnage absent dans un tableau de Quirico. Il donne à voir le manque d'un avenir nécessaire. Le côté rétrograde du surréalisme s'est manifesté d'emblée par la surestimation de l'inconscient et sa monotone exploitation artistique. L'idéalisme dualiste qui tente à comprendre l'histoire comme simple opposition entre les précurseurs de l'irrationnel surréaliste et la tyrannie des conceptions logiques gréco-latines. La participation à cette propagande bourgeoise qui présente l'amour comme la seule aventure possible dans les conditions modernes d'existence. Cette ambivalence du surréalisme a duré une dizaine d'années seulement. La pression des circonstances extérieures, particulièrement une régression de la révolution mondiale et la réussite d'un art surréaliste, entraîna dans ce délai le triomphe des caractères rétrogrades à l'intérieur du surréalisme. Le surréalisme aujourd'hui est parfaitement ennuyeux et réactionnaire. L'irrationnel qui a servi quelque temps contre les valeurs logiques dominantes sert à présent l'irrationalité dominante d'un régime toujours plus décomposé dont la confusion est l'arme idéologique primordiale. L'occultisme, la magie, la platitude humoristique, la passion d'un insolite toujours pareil à lui-même sont les déchets dont le surréalisme nous a encombrés dans sa longue vieillesse. Le surréalisme est maintenant mis en conserve et salué comme un beau scandale, indépassable par le conformisme d'une époque si usée que ses mouvements de libération même doivent être mangés au mythe. Les rêves surréalistes correspondent à l'impuissance bourgeoise, aux nostalgies artistiques et au refus d'envisager l'emploi libérateur des moyens techniques supérieurs de notre temps. À partir d'une mainmise sur de tels moyens, l'expérimentation collective, concrète, d'environnement et de comportement nouveau correspond au début d'une révolution culturelle, en dehors de laquelle il n'est pas de culture révolutionnaire authentique. C'est dans cette ligne qu'avancent mes camarades de l'International Situationniste.
C'était la voix de Guy Debord, un enregistrement de 1957 pour une conférence sur le surréalisme au cours de laquelle ce cher Guy Ernest avait laissé parler le magnétophone à sa place. Debord provocateur, certes, on a bien compris. Debord fait des films contre le cinéma, du moins ce cinéma où tout est possible. Il fait des films dont on sort au contraire, en se demandant « mais comment est-ce possible ?» De plus en plus, le cinéma commercial nous abreuve de ce « tout est possible mais rien n'arrive », nous fait prendre des vessies pour des lanternes, nous abuse. Est-ce qu'aujourd'hui les spectateurs du spectacle seraient devenus crédules? La réponse de Jean-Pierre Rehm.
Je ne pense pas que, en tout cas, c'est pas à moi de dire, d'émettre un quelconque jugement sur la nature des spectateurs. Chacun est responsable. Donc ça, c'est une question, j'ai envie de dire, qui regarde chacun. J'ai pas envie de parler des spectateurs comme on parle du grand public ou de massifier en fait ce que pourraient être des réflexes. Ensuite, quand vous dites que au cinéma, il semblerait que tout soit possible, j'ai plutôt envie de dire de soutenir la proposition inverse. Il y a très peu de choses qui me paraissent possibles, que beaucoup de films obéissent au fond à des règles narratives, à des règles d'écriture, de production qui font que les films sont, au contraire, font preuve d'assez peu de possibilités, hein, quand on sait que je ne sais pas, des gens autour d'Eisenstein étaient encore en train de se demander s'il fallait projeter un écran sur un écran circulaire, triangulaire, rectangulaire, carré, quelle était la meilleure forme. On s'aperçoit que l'écran rectangulaire est le seul écran. Pour prendre un exemple très simple, hein, mais bon, donc je pense que les possibilités du cinéma sont très, très inexplorées. Donc, bon, ça c'est le premier point. Ensuite, quand vous dites de Bordy, comment est-ce possible, je crois que c'est moins une phrase de quelqu'un qui s'étonnerait ou qui serait choqué de la réalité, plutôt que d'essayer d'utiliser le cinéma de deux façons. D'une part, pour décrire les apories dans lesquelles le monde actuel se place, enfin, c'est-à-dire en gros la façon dont le capitalisme a le malheur de résoudre ses crises, et puis en revanche de faire œuvre quand même de cinéaste avant-gardiste et justement de faire la preuve d'un certain nombre de possibilités. C'est dit, hein, dans Ingi Room et dans d'autres films, là aussi, encore je le répète, inexploré. Un film pouvait être, je crois quelque part c'est dit, un film aurait pu être un poème, un essai, et que finalement on est face à ce que lui décrit en utilisant des extraits de films de série B, dans une univocité, dans une homogénéité du cinéma. Après qu'il appelle par la violence de l'analyse ou son humour, hein, parce que très souvent on oublie de voir qu'il y a beaucoup d'humour dans les films ou dans les écrits de Debord, qu'il appelle le spectateur à se saisir des possibles, pas simplement cinématographiques, mais des possibles concrets, réels, ça c'est très certainement, oui.
Une invention essentielle dans le cinéma des années 60, c'est la désynchronisation de l'élément sonore qui constitue le cinéma et des images qui le constituent aussi. C'est même quelque part un décalage entre le son et l'image qui donne le plus de sens. Qu'en pensez-vous ?
Oui, alors ça, c'est une question extrêmement importante. La synchronisation, enfin, ce qu'on appelle le parlant, vous savez que c'est tardif dans l'histoire du cinéma. C'est en gros 27, il me semble. C'est moins, en fait, ce qu'on appelle le parlant, c'est moins le parlant que, comme vous le disiez très justement, la synchronisation, c'est-à-dire qu'une action correspond à un son et son commentaire. Donc en 51, Isidore Isou sort un film qui s'appelle Traité de bave et d'éternité, dans lesquels, effectivement, il y a une désynchronisation du son et des images, c'est-à-dire qu'on voit des images et en même temps on entend parler de tout à fait autre chose. Ça, c'est un film que Guy Debord a découvert à Cannes, sur la Croisette, et qui lui a fait un choc, comme à beaucoup d'autres, d'ailleurs, cinéastes, hein, puisque quelqu'un comme Brackett, je reconnais le film d'Isou comme étant le premier film, en fait, de l'histoire du cinéma expérimental. Un an plus tard, Hurlement en faveur de Sade, 52, de Debord, qui effectivement, là c'est plus de la désynchro, puisqu'il n'y a pas d'image véritablement, il n'y a que des sons. Mais ça c'est très important, oui, parce que on peut le lire on peut en faire les analyses de multiples manières. La désynchronisation, c'est d'abord, j'ai envie de dire, c'est d'abord un geste qui refuse la synchronisation, c'est-à-dire l'accord, l'harmonie, qui n'est pas, comme on le croirait, un effet de réalisme. Hein, on a tendance à croire que le parlant, en fait, c'est l'accomplissement de la vocation réaliste du cinéma. On voit quelqu'un bouger et parler, et on a les deux choses en même temps. En réalité, c'est un programme idéologique qu'un film comme Singing in the Rain montre très bien. C'est que le cinéma a beaucoup de mal, c'est au début une débâcle, j'ai envie de dire, de synchroniser l'image et le son. Ça prive d'un certain nombre de possibilités, ça réduit le film à sa langue maternelle, donc ça reterritorialise le cinéma, alors que le cinéma muet était un cinéma à vocation et pensé comme tel universaliste. Donc en fait, au lieu d'une augmentation en direction du réalisme, on a finalement un rétrécissement au nom d'une idéologie, c'est-à-dire à une image correspond un son, à un son correspond une image. Bon. Donc lutter contre la synchronisation, c'est lutter contre l'idéologie de la synchronisation. Et ensuite, au niveau esthétique, c'est aussi la synchronisation, ou refuser la synchronisation, plutôt, c'est dire... au lieu d'avoir un seul élément, c'est-à-dire image et son mêlés, en fait, on a l'image plus le son, plus le dialogue conflictuel, harmonieux ou indifférent que peuvent mener la bande image et la bande son. C'est-à-dire, donc, au lieu d'avoir un élément, on en a au minimum trois. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est des... c'est-à-dire on voit une chose, on entend parler d'une autre chose, et forcément, puisque les deux choses sont en même temps, même si elles ne sont pas synchrones, elles produisent une réalité intermédiaire, elles permettent finalement au spectateur de faire un film, de constituer un film qui n'existe pas, enfin qui n'existe pas sur l'écran, qui existe dans sa tête. Donc ça correspond aussi à une liberté du spectateur, à une espèce de cinéma imaginaire, oui, qui a été ensuite exploité pas simplement par Debord. Il ne faudrait pas en faire le père, encore une fois je répète, c'est Izou, mais des gens comme Duras, des gens comme Zieberberg l'ont exploité, ou même à certains moments les Straub l'ont exploité, et en outre cette histoire de synchronisation est d'autant plus importante qu'elle touche à l'essence du cinéma, puisque c'est au fond le seul art dans lequel ce jeu de la désynchronisation est fructueux, même si on sait que le théâtre a essayé d'en jouer, ça n'a rien à voir.
Continue notre parcours dans l'œuvre de Debord, dont les films utilisent toutes les ressources du collage, du montage. Alors, est-ce que le montage est l'essence même de l'art cinématographique ? Antoine Coppola, critique et enseignant le cinéma, règle la question.
Le montage comme essence même de l'art cinématographique, donc c'est une vieille théorie qui ne date pas du cinéma de Debord. Il suffit de penser à Eisenstein, qui était les avant-gardes soviétiques. Qui ont inspiré Debord. Ça, c'est assez clair. Debord détourne quelques films soviétiques, pas les meilleurs. Il a un projet, celui de filmer la théorie. Il filmera d'ailleurs la société du spectacle. Et ce projet de filmer la théorie, c'est le même projet qu'Eisenstein quand il veut filmer Le Capital de Karl Marx. On voit une filiation avec ces gens qui viennent du montage, qui viennent du film didactique. Le montage comme une organisation produisant du sens. Par contre, dans la réalité de la pratique debordienne du cinéma, on n'a pas l'effet de collage, on n'a pas non plus l'effet de montage didactique. on a quelque chose qui ressemble à un travail de dialectique entre le son et l'image. Le rapport son et le son, c'est plutôt le texte chez Debord. Le rapport texte-image est très riche chez Debord, très, très inventif. Beaucoup plus que celui de la production du sens par le collage d'images. Au contraire, à la manière réaliste, on va dire, puisque c'est plutôt de cette, l'interdit du montage vient des réalistes, chez Debord, on retrouve cette succession de plans qui ne produisent pas forcément du sens, mais qui produisent du sens en rapport avec le texte qu'il lit par-dessus. Et c'est un montage, moi je vois un montage, Einstein dirait un montage vertical, entre l'image et le son. Donc oui, le montage est important, mais pas dans le sens dans lequel on le croit au départ. C'est pas le montage d'image. Il y a très peu d'effets produits par le montage de Debord. Il n'y a pas d'effet de collage aussi, parce que quand on parle de collage, on a l'impression de poésie de l'image avec une part de hasard et une part de confrontation ouverte. C'est assez rare chez Debord, parce qu'il maîtrise vraiment tout. Il calcule les plans qu'il emprunte. Et s'il emprunte n'importe quoi, comme c'est le cas, il le dit lui-même. Il annonce, j'ai pris n'importe quoi pour vous dire ça, parce que justement, je voulais montrer que ces images sont n'importe quoi. Donc toujours, le sens prévaut. Il n'y a pas une ouverture au hasard et à la poésie. C'est un cinéma assez aride. Et récemment, les projections l'ont montré. Le nouveau public de Debord des années 2000 a constaté cette sécheresse du propos, cette sécheresse du montage. Alors qu'ils s'attendaient à des films détournés, comme on en voit un peu à la télévision, des films où Woody Allen en a fait déjà dès les années 60, hein. Ils s'attendaient à quelque chose de plus amusant. Alors que chez Debord, il y a un humour noir, mais qui est bien au second degré. Et au premier degré, il y a une force de propos politique qui tient de manière très, très puissante, très affirmée.
On a tout à l'heure, avec François Bazzoli, évoqué quelques courants marquants qui ont certainement influencé Debord. On l'écoute à nouveau sur l'impact de l'œuvre de Debord sur ses contemporains et l'influence qu'il exerce encore aujourd'hui sur les jeunes artistes.
Alors une chose très amusante, c'est que la société du spectacle, aussi bien le livre que le film, ont toujours été une des sources sinuantes dans les écoles d'art. Le film a dû y être projeté clandestinement des centaines, si ce n'est des milliers de fois. Le livre a servi comme une espèce de bréviaire, et ça, ce n'est pas la meilleure des choses. Mais enfin, c'était un peu une pensée pour lutter contre des temps moins efficaces que mai 68. Et aujourd'hui, depuis 4 ou 5 ans, il est vrai que le situationnisme est revenu d'une façon évidente, d'une façon marquée dans les écoles d'art. Les étudiants en font leur grain en moudre, en font leur farine, et le cite et le revendique constamment. Le fait le plus amusant, c'est depuis quelques mois, à quelques mois de la sortie du coffret des films de Guy Debord, c'est vrai que tous mes étudiants ont tenté de l'acquérir par les moyens légaux ou illégaux.
Donc une influence qui aujourd'hui reste tout à fait présente. Qu'est-ce qui du coup fait que ce personnage, qui a vraiment tout fait pour rester le plus clandestin du monde, pour être vraiment à la marge, pour se mettre à dos tout le monde, se fâcher à peu près avec tout le monde, comment se fait-il du coup qu'aujourd'hui il devienne un peu comme une icône? Vous avez parlé de la société du spectacle, son livre et film, comme un bréviaire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un peu à l'instar de Che Guevara, il devient une espèce d'icône du panthéon de la Révolution?
Alors il est beaucoup moins présentable que Che Guevara. Je n'ai pas encore vu de bord sur les t-shirts de quiconque, mais je crois qu'il représente, surtout depuis sa mort, le personnage clé de l'opposition, c'est-à-dire de ne jamais accepter une idée toute faite, de se trouver toujours en face de quelque chose à dénoncer, à démonter, à défaire, puisque je crois que c'est vraiment le terme qui convient à l'œuvre de Guy Debord. Il défait les idées, il défait les idées reçues, il défait les idées reçues qui s'ankylosent et qui forment un académisme de fond, un académisme de plomb surtout. Et je pense que si les jeunes gens, et je pense beaucoup de jeunes artistes, se retrouvent dans Guy Debord, c'est qu'il représente quelque chose de disparu. Il est aussi bien chez Guevara qu'un dinosaure de la pensée qui savait s'opposer, alors qu'aujourd'hui nous sommes, sans dire de banalité, nous sommes dans un monde de consensus et de lobbying et de force de pouvoir.
On arrive au terme de cette émission, au cours de laquelle nous n'avons fait qu'esquisser un trop rapide portrait d'artiste. Si vous souhaitez approfondir le sujet, voici quelques pistes. Allez par exemple au CIPM, à la Vieille Charité, pour y trouver le cahier critique de poésie numéro 9, consacré à Guy Debord, qui fait suite à la série de projections et de conférences programmées par le CIPM au cours de cette saison. Ou bien, lisez l'introduction au cinéma de Guy Debord par Antoine Coppola, c'est édité chez Sulliver. Et il faut, bien sûr, voir les films de Guy Debord. Ils sont réédités dans une intégrale en 3 DVD à l'initiative d'Olivier Assayas et c'est chez Gaumont Vidéo. Enfin, 2 sites, www.guydebordcinéaste.com et www.nothingness.com. Et quant à l'influence de Debord sur le cinéma actuel, pour vous en faire une idée, allez voir des films. Par exemple, à l'occasion du Festival international du documentaire, c'est du 6 au 11 juillet au Faro. Toute l'équipe de Grenouille sera en direct à l'occasion de ce festival. Merci aux participants de cette émission, François Bazzoli, Antoine Coppola, Jean-Pierre Rem, et merci aussi à Jean-Christophe Folle, Étienne Noiseau, Erwan Lefebvre au CIPM, ainsi qu'Arte Radio et Ubu pour les extraits sonores. Rendez-vous le premier dimanche de juillet, 13h10, pour un numéro spécial autour du Festival de Marseille. D'ici là, restez à l'écoute sur La Grenouille.
Et après
537 représentations.
La vie et le roman, c'est différent.